Vous écoutez France Inter, il est 19h20.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la Convention citoyenne pour le climat qui commence tout juste à se mettre en place. D'ailleurs, surveillez votre téléphone des fois que l'on vous sollicite. 200 000 à 300 000 personnes devraient être appelées pour éventuellement faire partie du panel de citoyens qui seront amenés à faire des propositions compatibles avec l'accord de Paris sur le climat. Cette Convention citoyenne avait été promise par Emmanuel Macron à l'issue du grand débat destiné à sortir de la crise des Gilets jaunes. On va voir d'ailleurs comment les choses se sont décidées, qui a fait pression pour la mise en place de cette instance, qui va piloter les opérations, quels seront les sujets abordés, comment les débats seront menés, quelle marge de manœuvre auront les participants et quel débouché il y aura pour les propositions qui en sortiront. On se demandera plus largement s'il s'agit d'un gadget ou d'une véritable nouveauté en matière de démocratie, si c'est le genre d'expérience qui peut vraiment réconcilier les citoyens et les politiques avec nous. Pour aborder tous ces sujets et répondre aux questions que vous vous posez, Thierry Pech, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de Terra Nova. Vous êtes l'un des deux co-présidents du comité de gouvernance de cette convention citoyenne, c'est bien ça?
C'est ça.
À nos côtés également, Céline Guivarch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, membre du Haut Conseil pour le climat. Vous êtes économiste, spécialiste des questions d'environnement, directrice de recherche à l'école des ponts, Paris Tech. Votre présence est importante pour qu'on comprenne de quoi cette instance citoyenne, cette commission, va pouvoir se saisir ou pas. Nous serons également en ligne au cours de cette émission avec Mathilde Himmer de Démocratie Ouverte et avec Priscilla Ludowski des Gilets Citoyens qui ont pris part à la mise en place de cette convention. Pour interroger nos invités, franceinter.fr ou Twitter avec le mot-clé Telson ou bien le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite un premier appel qui nous vient du Mans. Jean-Louis est en ligne. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir, j'ai donc lu la présentation du téléphone sonne de ce soir sur le site de France Inter et je retiens cette phrase. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40%, c'est-à-dire d'ici 2030, c'est-à-dire en 10 ans, dans un esprit de justice sociale? Je vous avoue très franchement que quand j'ai lu ça, je me suis demandé s'il s'agit d'une plaisanterie. Parce que on va appeler 300 000 Français, on va en sélectionner 150 qui vont bien représenter la population française, c'est-à-dire dans son niveau d'instruction, de compétence, de tout ce que vous voulez, et c'est pas péjoratif ce que je dis. Et on va leur dire, voilà, maintenant c'est vous qui choisissez parmi toutes les mesures qui existent, qui sont proposées. On va les culpabiliser parce qu'ils seront ensuite critiqués par les extrémistes écologiques, d'autre part par ceux qui trouveront qu'on va leur en demander de trop. Je suis très dubitatif par rapport à ça. Alors qu'on a un GIEC qui fait des propositions qui peuvent être débattues par même d'autres scientifiques que ceux qui sont inscrits dans le GIEC, éventuellement par des représentants du peuple, parce que ça existe quand même, on est en démocratie, donc on a des représentants du peuple, et tout ça sous le regard de cette convention citoyenne de Cyril Dion. Moi je l'ai entendu sur France Inter, interviewé par Pierre Veil cet été. Je dois dire, je suis très très dubitatif.
Eh ben on va poser la question, Jean-Louis. Je ne sais pas si on peut parler de la convention de Cyril Dion. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, vous avez raison de poser toutes ces questions. Un grand merci de nous avoir appelé. Thierry Pech, on le voit, oui. il est dubitatif, hein,
non,
Jean-Louis.
Je pense que Jean-Louis se pose des questions que d'autres se posent ou se poseront. Et donc, il est important d'y répondre. D'abord, quelques observations sur ce qui vient d'être dit. Le GIEC ne fait pas de recommandations. Le GIEC produit un diagnostic, cherche à établir le consensus scientifique sur un certain nombre de problèmes, le réchauffement climatique et ses causes anthropiques. Et donc le GIEC ne peut pas être une source de propositions, c'est une source d'information. C'est pas tout à fait pareil. Ensuite, bien sûr que les représentants du peuple ont une légitimité, il ne s'agit pas de substituer la démocratie participative à la démocratie représentative, mais de les articuler. Les propositions qui seront faites par la Convention citoyenne pour le climat déboucheront peut-être sur des projets législatifs qui seront examinés au Parlement, sur des propositions de référendum qui reviendront devant le peuple et donc devant la source de la légitimité en démocratie. Troisième remarque concernant Cyril Dion. Cyril Dion fait partie des trois garants de la Convention citoyenne pour le climat. Il ne siège pas au sein du comité de gouvernance et il ne participera pas en tant que tel donc à cette convention. Ce n'est pas sa convention. Donc on a besoin, et c'est ça le point et l'utilité de la Convention citoyenne, d'avis citoyens, collectifs, indépendants, pour savoir où est le consensus possible pour construire une action déterminée contre le réchauffement climatique. On est dans un pays où il y a un consensus grandissant sur la réalité du péril climatique et sur ses causes d'origine humaine. En revanche, on l'a mesuré avec les manifestations des Gilets jaunes il y a quelques mois, on a pu mesurer qu'il n'y avait pas un consensus équivalent sur les moyens d'agir contre le réchauffement climatique. Et c'est ça qu'il faut essayer de produire.
En tout cas, je comprends quand même ce que veut dire Jean-Louis. Il s'interroge sur la légitimité de 150 citoyens qui auront été désignés, tirés au sort, etc., par rapport à tous les spécialistes, entre guillemets, qui connaissent le sujet. Céline Guivarche, vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat. Vous avez produit des rapports, vous aussi. Vous avez même interpellé les autorités sur la politique qui est menée. Vous comprenez les interrogations de Jean-Louis par rapport à ce qui est en train de se mettre en place ?
Tout à fait. La question du changement climatique, c'est quand même une question qui est complexe, qui nous concerne tous. Les émissions de gaz à effet de serre en France, elles viennent principalement du secteur des transports. C'est 31% des émissions aujourd'hui. Du secteur des bâtiments, c'est presque 20%. Puis de l'agriculture, 20%. Et finalement, on est dans une situation un petit peu particulière en France parce que réduire les émissions de ces secteurs, parce que les émissions de notre production d'énergie, d'électricité, est relativement faible par rapport à celle de nos voisins européens, par exemple, et où pour les réduire, c'est un petit peu plus facile. Là, on est sur des secteurs qui nous concernent tous dans notre quotidien.
Est-ce que vous avez peur, par exemple, qu'une assemblée de citoyens puisse remettre en cause un certain nombre de certitudes du côté des scientifiques ou des spécialistes ?
Il y a des certitudes et si on reparle du GIEC qui a pour rôle de donner le consensus scientifique, où est-ce qu'on sur quel sujet on a suffisamment de preuves de connaissances, où est-ce qu'il subsiste des incertitudes. Le GIEC ne fait pas de propositions sur les actions à mener. De même, en France, le Haut Conseil pour le climat, qui est une instance indépendante d'experts, qui a pour vocation à donner une évaluation factuelle et rigoureuse de l'adéquation ou non des actions, des politiques publiques face au changement climatique. Le premier rapport qui est sorti fin juin, le constat, c'est que les actions ne sont pas à la hauteur de l'ambition et que les deux principaux secteurs, transport et bâtiment, on est face à des blocages et ces blocages, c'est des sujets difficiles parce qu'ils nous concernent tous et qu'ils remettent en cause du quotidien. Et aller demander à des citoyens peut permettre de voir où est-ce qu'il y a des possibilités d'action.
Thierry Pêche, ce que devront faire les citoyens qui participeront à cette commission, en tout cas, devrait être dans le cadre de l'accord de Paris. Il va falloir respecter, en tout cas, les objectifs tels qu'ils ont été fixés.
La lettre de mission du Premier ministre qui nous a été confiée nous demande de faire des propositions de nature à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, au moins 40%, et très prochainement sera inscrite dans la loi française une finalité plus ambitieuse encore, qui est la neutralité carbone en 2050. Donc il s'agit bien de travailler dans cette perspective. Et c'est la perspective, en effet, de l'accord de Paris pour l'objectif à 2030. Donc on va demander effectivement à ces citoyens, non pas de produire du savoir, non pas de produire de l'expertise, ce ne sont pas des experts, mais on va leur demander leur jugement sur des situations et des propositions qui leur seront faites par des experts, justement, qu'on va auditionner avec leur accord. Ils nous demanderont peut-être d'autres experts. Bon. On va leur demander d'arbitrer, de juger, de nous dire... Pour nous, la voie de passage sur ce sujet, c'est celle-là, c'est pas celle-là. Voilà. On est dans une démocratie. C'est le rôle des citoyens dans une démocratie de faire ses choix. Parce que ces choix, comme l'a dit
Céline Guivarche,
ces choix, comment dire, impliquent des changements de mode de vie, de choix de société, de mobilité sur le territoire pour les déplacements quotidiens, d'organisation du logement, de la consommation. Donc tout ça... Ça concerne tout le monde. Il est légitime que ceux qui en ont une expérience quotidienne viennent donner leur avis.
Stéphane nous appelle des Hautes-Alpes, il est au bout du fil. Bonsoir Stéphane, on vous écoute.
Bonsoir. Donc ben moi ça fait très personnellement une vingtaine d'années que je suis militant dans différentes associations, faucheurs volontaires d'OGM entre autres. Nous avons mené des actions au quotidien, des réunions publiques où tout le monde est invité, où on demande à tout un chacun de venir participer. Malheureusement, nos salles sont souvent bien vides. On invite les politiques, on invite les chefs d'entreprise, on invite évidemment les citoyens lambda pour les informer et leur donner des solutions, ou au moins en discuter ensemble, essayer d'y réfléchir. Et là, tout à coup, on nous sort un tirage au sort sur des gens qui ne seront pas forcément informés. Alors, on n'a rien contre la démocratie participative. Et dans nos milieux associatifs, on est très démocratie participative. Donc, c'est pas là le problème. Par contre, on va choisir des gens lambda et on va leur demander de donner un avis sans être informé, en faisant quelques week-ends. Et voilà. Et nous, depuis des années, on s'accroche. L'histoire nous donne raison, mais on nous met un peu la tête dans l'eau. Je pense que c'est...
Vous le prenez pas très bien, hein, Stéphane. Hein.
Non, je le vais pas très bien. Mais non, mais parce que nous, on a pris des coups de bâton. Je veux dire, le quotidien d'un militant, c'est pas toujours facile. Et ce que je veux dire, c'est, je pense que c'est un peu démagogique. Premièrement, et deuxièmement, c'est se payer une crédibilité pour pas cher. Voilà ce que j'en pense. Et un petit mot pour France Inter, bravo pour vos publicités pour les voitures, j'adore. Ben, allez, bonne soirée.
Allez, merci beaucoup Stéphane pour cette petite remarque. Moi j'aimerais que ce soit Mathilde Himmer qui vous réponde. Elle est en ligne et il se trouve qu'elle est coprésidente de Démocratie Ouverte et il se trouve qu'elle fait partie de ceux qui ont demandé justement la mise en place de cette convention. Mathilde Himmer, vous êtes là ?
Tout à fait, bonsoir à tous.
Bonsoir à vous. Est-ce que vous pourriez répondre à Stéphane qui milite pour l'environnement depuis des années et qui comprend pas très bien qu'on aille demander l'avis de gens qui, pour certains, n'y connaissent pas grand-chose pour l'instant ?
Bah, tout d'abord, je comprends le sentiment de Stéphane quand il dit qu'être militant écologiste, c'est pas facile aujourd'hui, parce que je le vis moi-même. L'idée qu'on a derrière ça, c'est de se dire, les citoyens aujourd'hui, il n'y a pas un consensus au sein de la société française sur les solutions à mettre en place. Il y a un consensus aujourd'hui sur le fait qu'il y a un problème. Le GIEC le dit, les citoyens français aujourd'hui sont globalement d'accord sur le fait que le changement climatique c'est important et qu'il ne faut pas quelque chose. Ce à quoi on n'arrive pas à arriver avec notre démocratie représentative toute seule, c'est arriver à un consensus sur les solutions. Et donc l'idée d'avoir ces citoyens tirés au sort, c'est comme le disait Thierry, d'arriver à des arbitrages sur des solutions pour arriver enfin à enclencher les politiques publiques dont on a besoin pour résoudre ce problème extrêmement complexe.
Mais pourquoi est-ce que
je suis pas d'accord avec
pourquoi lui. Est-ce que 150 citoyens, qui pour certains connaissent pas les sujets, pourraient trouver les bonnes solutions, Mathilde Himmer ?
Alors je donne un exemple simple en fait. Si on a proposé ça, c'est une raison toute simple qui nous vient de l'étranger. C'est qu'il y a deux exemples de conventions citoyennes de ce type-là qui ont marché. Une en Irlande qui a permis la légalisation de l'avortement et une au Texas, pays pétrolier par excellence où le lobby est très très fort et qui a permis à l'État du Texas de devenir le premier producteur d'énergie éolienne de tous les États-Unis d'Amérique. Donc on voit bien que là, un processus comme ça permet d'enclencher une vraie dynamique dans un État, y compris quand les lobbies sont forts. Là où, pour répondre sur la question de l'information, évidemment que ces 150 citoyens tirent au sort, c'est pas comme un sondage. On ne va pas leur demander leur avis comme ça sans qu'ils aient eu de l'information. Donc on va évidemment se nourrir et les nourrir du rapport du Conseil pour le climat, mais aussi de tout ce que produit la société civile et les experts en général. Et donc l'idée, c'est d'arriver via la délibération, via l'apport de ces contenus-là, à ce que les citoyens, au vu de tous ces apports de contenus, au vu de toute cette expertise, au vu de toute cette information, arrivent à arbitrer là où est le bon curseur sur les questions de politique publique, sur les questions climat.
Merci beaucoup Mathilde Himmer, coprésidente de Démocratie Ouverte. Merci d'être intervenue dans ce téléphone sonne. Thierry Pech, on perçoit quand même la question des différentes légitimités qui vont se poser dans cette affaire.
Mais en démocratie, il y a plusieurs registres de légitimité. Il y a la légitimité du suffrage, bien sûr, des élus, de la démocratie représentative. Il y a la légitimité du savoir, des experts. Mais il y a aussi une autre légitimité, qui est celle de la participation civique, qui est celle du retour de la société sur les décisions qui sont prises en son nom. Et donc, la démocratie participative, elle porte cette légitimité-là. Elle n'écrase pas les deux autres. Elle vient les compléter, elle vient les enrichir. Et c'est de la confrontation et de la conjugaison de ces légitimités que naissent, je pense, que peuvent naître de bonnes politiques. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Mathilde sur le fait que ces citoyens seront informés. Ils le seront en 6 week-ends, ça paraît peu. Mais ils vont travailler.
On va expliquer comment les choses
vont travailler également entre les week-ends. Ce que je voudrais dire, c'est que cette information sera transparente. Chacun pourra aller la consulter sur le site de la Convention. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que Stéphane, s'il le souhaite, pourra déposer sur le site de la Convention les propositions qui lui semblent bonnes. on les lira, on les soumettra aux citoyens, et s'ils les jugent intéressants, eh bien peut-être ils les retiendront. Donc tout ça se fera en toute transparence, ces gens seront raisonnablement informés et aux meilleures sources. On veillera à ce que les sources d'information soient de qualité, à ce que les experts qui seront auditionnés le fassent de la façon la plus impartiale possible et en déclarant leurs intérêts s'ils en portent. Donc attendez, regardez, je vous garantis que le processus sera, de ce point de vue-là, exemplaire.
Céline Guivarch, vous avez entendu, vous aussi, Stéphane, militant pour la cause environnementale depuis des années, vous comprenez son désarroi ?
Oui, bien sûr, je comprends son désarroi. Peut-être en tant que scientifique et chercheuse, j'ai eu le même type d'interrogation finalement, où ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, appellent à l'action et on peut se dire finalement oui, mais quid, est-ce que ces 150 citoyens vont permettre de débloquer les choses? Je pense qu'on est à un moment un peu historique où il y a une prise de conscience de la question des impacts du changement climatique qu'on voit aujourd'hui, y compris sur notre territoire, et une envie d'agir réelle, peut-être en sachant pas exactement comment, avec des blocages, et c'est là qu'on a besoin de discuter collectivement, chacun de sa place, les experts de leur place d'experts, mais c'est pas aux experts de faire les politiques.
Cette fois on est en ligne avec Philippe, il nous appelle du Jura. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir et merci à France Inter.
Bienvenue
pour
à vous.
Votre émission. Voilà, moi je voulais intervenir juste sur deux petites choses. J'ai entendu vos intervenants, donc je crois que j'irai dans le même sens. D'abord rappeler que cette forme de démocratie, par tirage au sort, n'est pas une chose nouvelle. Dans l'histoire de la démocratie, on peut remonter jusqu'à la Grèce antique, mais il y a eu énormément d'expériences, que ce soit en Italie, en Espagne, en Islande, mais depuis des centaines d'années. Donc c'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui est très efficace, mais qui n'est pas contradictoire avec la démocratie simplement électorale. C'est une forme de démocratie qui est beaucoup plus près du peuple, mais qui n'est pas contradictoire. La deuxième chose, je voudrais juste rappeler, on est dans un monde mondialisé qui est violent, donc c'est vrai que la dictature, elle a besoin de 15 jours pour faire sa loi, mais la démocratie, elle a besoin de temps. Et c'est pour ça que cette initiative, moi je la soutiens complètement, il faut un petit peu de temps pour que des citoyens puissent apporter tout ce qu'ils peuvent. Et moi j'ai entièrement confiance dans cette convention, avec les garants qui ont été nommés.
Merci Philippe. Tout à l'heure Thierry Pêche nous disait qu'on allait pouvoir suivre les débats. Vous allez le faire, vous allez vous mettre sur le site, j'imagine qu'il y aura un site, on va préciser tout ça, et puis vous allez suivre ce que va faire cette convention.
Non seulement je vais le faire, mais je vais mobiliser autour de moi pour que les gens s'y intéressent. Tout à fait.
Merci beaucoup Philippe. Vous voyez Thierry Pêche, il y en a qui
s'intéressent. Un grand merci à Philippe parce que non seulement il témoigne de la confiance à cette procédure, mais en plus, il va contribuer à faire vivre le débat en dehors des murs de la Convention, et c'est très important que le débat vive dans les murs et hors les murs. Les débats de la Convention ont vocation à être les débats de la société tout entière. Et donc, je le remercie et je l'encourage à trouver d'autres personnes comme lui qui feront la même chose. Il a raison sur le hasard, sur le tirage au sort. C'est la plus antique procédure démocratique. Si vous me permettez une parenthèse historique, dans la Florence du XVe siècle, s'affrontaient les gens souvent modestes qui plaidaient pour le tirage au sort, pour la désignation des magistrats de la ville, et les gens souvent d'origine beaucoup plus aisée qui plaidaient pour l'élection, parce qu'ils pensaient pouvoir en maîtriser les termes, voire en acheter les électeurs. Et le tirage au sort avait une vertu que n'a pas toujours l'élection, c'est qu'au tirage au sort, n'importe qui peut être désigné, n'importe qui. Et au fond, l'idéal démocratique, c'est quand même d'ouvrir les fonctions de gouvernement, de décision, de proposition, de fabrication de la loi à n'importe qui.
Nous sommes en ligne à présent également avec Priscilla Ludowski. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous, on sait que vous êtes à l'origine de la pétition contre la hausse des taxes sur les carburants qui avait fédéré les mécontents l'an dernier, qui a donné lieu au mouvement des Gilets jaunes. Vous faites partie des Gilets citoyens qui ont réclamé ces tables rondes. Vous pensez que ça peut être une solution, cette convention?
Ça peut effectivement être un bon moyen de
de créer des mesures qui seraient beaucoup plus justes socialement, dans le sens où on implique les personnes directement impactées par des mesures telles que la mise en place de la taxe carbone. Je pense que lorsque on implique les principaux concernés par des mesures, on peut arriver à co-construire des choses plus intéressantes et surtout plus ancrées au sol, qui sont beaucoup plus ancrées dans la réalité et qui tiennent compte justement de cette réalité de terrain.
Vous avez participé donc à la mise en place de ce mécanisme, vous l'avez réclamé. Vous pensez que aujourd'hui les garanties sont suffisantes telles que les choses se présentent?
Alors pour l'instant, ça a bien démarré. Sur le site des Gilets Citoyens, on a mis en place justement un hub qui permet de rester alerte sur le sujet et de pouvoir informer régulièrement les personnes qui se poseraient des questions sur le dispositif, bien qu'il y ait un site ouvert pour la convention. Le collectif s'engage aussi à informer correctement les gens et puis à être là en tant que petite vigie citoyenne. Et donc les lignes rouges qu'on avait nous mis en avant pour pouvoir s'assurer que les dispositifs seraient bien mis en place, et ben on continuera de suivre à distance si ces lignes rouges ne sont pas franchies et d'alerter la population si besoin est.
Pour vous, c'est une forme de démocratie qui peut permettre de débloquer la situation?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tous les cas, après toutes les alertes qui ont été déjà faites par les différents organismes, après les rapports faits par le Haut Conseil et avec les derniers résultats encore récents, et avec une participation citoyenne qui s'ajoute, ce serait quand même fort compliqué de ne pas tenir compte de tout ce qui sera dit et construit au sein de cette convention. Et ce serait vraiment dommage de pas avoir une issue positive.
Ça veut dire que les choses maintenant vont se passer au sein de cette convention, Priscilla Ludowski, et non plus dans la rue, c'est ça que ça veut dire?
Non, je dirais que c'est plutôt complémentaire. Je dirais que c'est complémentaire parce que c'est nécessaire que ces mobilisations, pour moi, en tous les cas, perdurent, puisque c'est quand même une manière d'alerter la population aussi autrement, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce qui se passe. Notamment au sein du gouvernement et puis cette convention, tout le monde n'est pas forcément au courant qu'elle a lieu. Et je pense que là aussi, les médias ont un rôle à jouer en matière d'information et que la population s'intéresse à ce qui se passe, débatte aussi. C'est le débat de tout le monde, c'est pas juste le débat de la convention et puis du monde écolo, c'est le débat de tout le monde. On est tous concernés, donc c'est vrai que les mobilisations qui vont bientôt arriver là sur le mois de septembre, elles sont pour moi nécessaires, elles sont complémentaires à ce type de dispositif.
Voilà, donc vous ne baissez pas la garde dans la rue. Un grand merci, Priscilla Ludowski, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France Inter. Thierry Pech, on voit bien que on va avoir différentes strates. Il n'y a pas concurrence, mais il y a complémentarité dans les modes de décision. C'est ça que vous souhaitez, que vous dites.
Oui, c'est ce que je disais. La démocratie a plusieurs visages en même temps. Ils sont complémentaires, ils sont parfois rivaux, mais il faut les conjuguer. Il faut apprendre à les articuler. Et parmi ces visages, il y a les mobilisations de rue, en effet. Je ne dis pas ça pour y appeler ou pour les critiquer, ça n'est pas mon propos. Mais c'est un fait. Elles sont là. Le fait que le hub des Gilets citoyens se pose en vigie, pour reprendre les mots de Priscilla Ludowski, est une très bonne chose. On a besoin d'être sous le regard, sous le contrôle public. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, ça me sécurise. Plus il y aura de vigie autour de la convention, plus elle sera indépendante. Et c'est très bien.
Mais c'est quand même une façon de démonétiser un petit peu les parlementaires.
Parce qu'a priori,
le Parlement est quand même le lieu du débat, normalement.
Écoutez, partout où de telles expériences ont été conduites, on a cité l'Irlande, on a cité le Texas, on pourrait citer la Colombie-Britannique au Canada. Dans aucun de ces pays, aucun, cet exercice n'a conduit à dévaloriser le Parlement ou la démocratie représentative. Je dirais même au contraire. Prenez l'exemple irlandais. En Irlande, le droit à l'avortement passait pour une question politique impraticable dans la classe politique irlandaise. On pensait que c'était pas la peine d'ouvrir cette discussion parce qu'elle était facteur de trop nombreux conflits. La convention citoyenne irlandaise, qui s'appelait l'Assemblée des citoyens, a au contraire dit aux politiques « Écoutez, vous vous trompez, il y a un consensus entre nous. Ce consensus, il porte à 65% en faveur du droit à l'avortement. » Un référendum a eu lieu à l'initiative des politiques qui ont dit « Bon, ben, très bien, faisons un référendum. » L'Irlande, la société irlandaise, a voté à 66%, presque la même chose, en faveur du droit à l'avortement. Le mécanisme de l'Assemblée des citoyens irlandaise n'a pas été un mécanisme anti-représentatif. Ça a été un mécanisme, d'amorçage d'un nouveau processus politique. Donc je ne peux pas laisser dire qu'il y aurait une contradiction. Au contraire, il y a une forme de complémentarité.
Alors on va passer à des questions très pratiques parce qu'on en a notamment sur franceinter.fr. On va commencer peut-être par les ultramarins qui nous demandent s'ils vont être associés à ce processus.
Absolument. Il est prévu d'avoir des représentants des territoires, départements d'outre-mer, absolument.
Question de Xavier, j'aimerais bien savoir en savoir plus concrètement sur le tirage au sort. Comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez nous... Ça a commencé? Expliquez-nous
oui,
tout ça.
Alors, c'est assez simple. Le tirage au sort, ça consiste à demander à un logiciel sous le contrôle d'un huissier de générer un certain nombre de numéros de téléphone. Ce sont des numéros de téléphone qui sont tirés au sort. À 85% des numéros de mobile, parce que ça permet de toucher les gens directement, puis que le numéro de mobile appartient en général à la personne que vous appelez, contrairement au numéro de fixe qui peut être partagé par plusieurs personnes. Ça a été fait il y a maintenant plusieurs semaines. On a généré 254 964 numéros de téléphone. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on appelle les gens. Donc là, la génération aléatoire du numéro de téléphone, c'est la partie de tirage au sort. Ensuite, on appelle les gens, on leur dit voilà, est-ce que ça vous intéresse? Certains nous disent non, très bien. Certains nous disent oui. Alors on leur pose un certain nombre d'autres questions sur leur situation socio-professionnelle, sur leur âge, sur leur niveau de qualification et de diplôme, de manière à savoir à qui on a affaire. Et
ça veut dire que vous n'écartez pas ceux qui vous paraissent ne pas s'intéresser au sujet.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire des personnes qui, jusqu'à présent, ne se seraient pas forcément intéressées aux questions environnementales, non
vous... Au contraire, ils sont les bienvenus. On a besoin de tout le monde, y compris de ceux qui doutent de la nécessité même de lutter contre le réchauffement climatique. Tous les représentants de la société sont les bienvenus, qu'ils y croient, qu'ils n'y croient pas. Bref, on discute avec eux, on leur présente le projet, ils nous disent, pour ceux qui s'intéressent, ça nous intéresse, on voit à qui on a affaire, et à ce moment-là, on propose la signature d'une convention d'engagement des personnes intéressées, de façon à ce qu'elles s'engagent à suivre les sessions de la convention. Tout ça est indemnisé, hein, les citoyens qui participeront seront indemnisés à hauteur de 86 euros par jour, sur 17 jours, ça représente même 1460 euros. Il y a également une indemnité pour garde d'enfants, une indemnité pour perte de revenus professionnels. On a essayé de créer les conditions idéale pour que les gens puissent le faire.
Alors, on va revenir sur cet aspect pratique, mais concernant les appels téléphoniques, on a justement Pascal qui est au bout du fil et qui a des questions à vous poser.
Ça vous connaît, les appels téléphoniques.
C'est le principe même du téléphone. Vous avez raison. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre ma question. Voilà, actuellement, on reçoit énormément d'appels téléphoniques à visée commerciale. Et est-ce qu'il serait possible d'avoir le numéro d'appel pour qu'on puisse faire le tri parmi tous ces numéros?
Très bonne question, Pascal. Voilà. Oui, excellente question.
Thierry, je vous réponds, Pascal.
Je ne l'ai pas sur moi, mais ce que je vais vous proposer, c'est de le communiquer dès après l'émission
à France Inter. On va le mettre sur la page de l'émission.
Et vous le mettrez sur la page de l'émission, comme ça vous le connaîtrez. Vous avez raison, ça pourrait passer pour un canular.
Il y a un numéro unique qui appelle.
Oui, absolument, vous pourrez repérer le numéro d'appel. En effet, on vous le donnera.
Pour éviter d'avoir effectivement des sollicitations non voulues, c'est important. À la fin, Thierry Pêche, 150 personnes seront retenues. 150, c'est pas beaucoup. Est-ce ceux qui ont envie de participer, il va y avoir des déçus?
Ah, peut-être, bien sûr. Ceux dont le numéro de téléphone n'aura pas été tiré au sort et qui auraient eu envie de participer seront déçus. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que leur tour viendra. Ils peuvent aussi peut-être prendre l'initiative de créer ce genre d'événement là où ils sont, à leur propre initiative. Vous savez, la démocratie participative n'a pas toujours besoin de l'impulsion de l'État. Donc je m'excuse auprès de tous ceux qui ne seront pas appelés, qui n'auront pas cette chance et qui l'auraient souhaité. Mais bien sûr, on ne peut pas prendre tout le monde. L'idée, c'est que ces 150 citoyens constituent une France en miniature, une France en petit. C'est-à-dire qu'on y retrouve les équilibres de la société
52%
française.
52% de femmes.
Par exemple, hein. 52% de femmes. Donc
6 tranches d'âge.
Oui, voilà.
Toutes donc, les zones géographiques représentées. Enfin, ça va être difficile quand même.
Les grandes régions. Bien sûr, il faudra qu'il y ait des Bretons, des Alsaciens. Il faudra que les différentes grandes régions françaises soient représentées, mais aussi les types de territoires, que les cœurs d'agglomération soient représentés, mais aussi les zones périphériques, le monde rural. Donc tout ça est un petit peu complexe à mettre en place, hein, parce que évidemment, quand les gens nous appellent, au bout d'un moment, on pourrait se retrouver avec une seule catégorie ou une catégorie très surreprésentée. Donc on va peut-être être amené à dire non à des gens qui seront intéressés parce qu'on aura déjà leur profil. profils. Et parce qu'on cherchera, au contraire, à des profils qui nous manquent. Bon, il faut, par exemple, qu'il y ait dans cette convention près de 30% de gens non diplômés ou qui ont simplement le brevet. Parce que c'est ça la réalité de la société française. Et il ne faudrait pas laisser de côté une catégorie au passage.
Alors, ils auront droit, première réunion début du mois d'octobre, ils auront droit à quoi ? 6 week-ends de 3 jours de travail jusqu'à début 2020, et ce sera au siège du Conseil économique, social et environnemental, c'est ça ?
Absolument. Alors, ils auront droit, en tout cas, il y aura 6 week-ends de travail, dont 5 week-ends de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, et un week-end de 2 jours. Ils pourront également, à leur initiative et à leur demande, demander à se réunir une dernière fois, une journée supplémentaire, après les réponses du gouvernement, pour dire ce qu'ils pensent des réponses du gouvernement. On a souhaité ce dispositif pour que la décision du gouvernement et du président de la République en réponse aux propositions de la Convention soit vraiment mise un moment de responsabilité politique. Les décisions qui seront prises par le Premier ministre ou le président de la République en réponse à la Convention seront prises avec l'idée qu'elles donneront peut-être lieu à un commentaire agréable ou pas agréable des citoyens eux-mêmes peu après les déclarations.
Alors, concernant ces propositions, le Haut Conseil pour le climat, Céline Guivarch, va-t-il intervenir, par exemple, en disant à un certain moment, en fonction des propositions qui vont en sortir, là, pas touche, vous allez trop loin, ça ne peut pas correspondre aux objectifs que la France doit respecter ?
À ma connaissance, le Haut Conseil pour le climat est impliqué pour la phase d'information initiale.
Vous allez faire partie des experts qui vont aller peut-être former les citoyens.
Alors pour l'instant, on ne sait pas encore qui et comment, et c'est des choses qui
c'est une possibilité. Thierry Page va nous le dire. C'est une possibilité. Rien n'a été décidé à ce jour.
Tout à fait. Voilà. Le rapport du Haut Conseil pour le climat est public depuis le jour où il a été remis le 26 juin dernier. Donc il pourra faire partie des documents mis à disposition des 150 citoyens ou de tous les citoyens français dès aujourd'hui. Il y a une version plus grand public et plus courte qui est en cours de finalisation qui devrait être disponible aussi. Maintenant, c'est pas du tout le mandat du Haut Conseil.
Non, mais
pour
le climat. En tant que Haut Conseil, on peut imaginer que s'il y a des choses à dire, vous allez vous exprimer.
Alors, nous, on a un mandat pour faire un rapport annuel sur les politiques publiques françaises par rapport à l'ambition, par rapport à l'action climatique. Donc, il y aura un prochain rapport l'année prochaine et probablement aussi des éléments intermédiaires.
À surveiller, et on verra tout ça.
À surveiller.
Thierry Pêche, comment allez-vous former, entre guillemets, ces 150 citoyens
Alors, on va leur donner...
Parce que les sujets sont vastes, quand même.
Bien sûr. Les sujets, c'est quoi ?
Je sais pas, il y a peut-être déjà la taxe carbone.
Se loger.
Ouais.
Parce qu'il y a un problème de rénovation des bâtiments, d'isolation énergétique. C'est se déplacer, l'usage de la voiture, des mobilités douces, du multimodal, du transport de marchandises. C'est se nourrir. Et derrière l'alimentation, vous avez la question du modèle agricole. C'est consommer les autres consommations. On a parlé des textiles, là, il y a quelque temps. C'est aussi produire et travailler, parce que le réchauffement climatique et les politiques de transition vont changer les métiers, les façons de travailler, etc. Donc, on va parler de tous ces sujets. Comment on va former les gens ? On va d'abord leur donner un socle d'informations minimales préalables, d'informations générales. C'est quoi le réchauffement climatique ? C'est quoi le consensus scientifique sur le réchauffement ? C'est quoi les causes, le consensus scientifique sur les causes du réchauffement ? C'est où sont les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays ? Émissions de gaz à effet de serre territoriales sur le territoire français, mais aussi des émissions importées, parce que quand on importe un produit qui a été fabriqué en produisant beaucoup de CO2, et bien on importe cette émission de CO2. Et puis, qu'est-ce qui a été fait depuis 20-30 ans ? Parce qu'on n'est pas resté les bras croisés, même si on n'est pas au rendez-vous de la trajectoire qu'on s'était fixée, et on risque même de s'en écarter plus encore, on a quand même fait des choses. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On va donner ces informations générales préalables. Et puis après, on va confronter les citoyens à des problèmes, à des controverses. Et selon le choix qu'ils feront dans cette liste de problèmes ou de controverses, eh bien, ils auront besoin d'informations plus spécifiques. Et ces informations leur seront données par des experts, des auditions, mais peut-être aussi
vous
par...
Vous allez leur suggérer des
Bien sûr,
des
on, sujets. Va, on va leur proposer des sujets, mais ils pourront aussi nous dire on a d'autres idées et donc on changera le programme. C'est eux qui seront souverains.
Et ça, c'est censé aboutir à des propositions, c'est ça?
Bien sûr.
Je crois qu'il y a Francis qui a une question à ce sujet. Il nous appelle de la région parisienne. Bonsoir Francis.
Oui, bonsoir. J'ai appris beaucoup de choses tout à l'heure dans votre émission. Donc un sursaut démocratique en tirant au sort une telle commission. Bon, il me semble qu'on réforme les assemblées, il y a des projets de loi pour ça. Et j'ai pas entendu parler, j'ai entendu parler de l'introduction d'un peu de proportionnel, mais personne ne sera tiré au sort dans les nouvelles assemblées. Donc ce serait pas démocratique, puisqu'il paraît que c'est une très bonne solution.
Alors là, Francis, vous emmenez sur le terrain de la réforme institutionnelle. C'est pour un autre téléphone sonne, ça, je vous promets. Hein, on a déjà refera.
Oui. Non, je concluais sur ce sursaut démocratique. Oui, effectivement, c'est une bonne solution, mais elle n'est pas retenue par le gouvernement, que je sache. Bon, donc si on propose dans cette commission le rétablissement de portiques, par exemple, ou de réduire les transports en commun de marchandises de 70%, réserver les transports en camion uniquement au local, enfin des choses qui paraissent évidentes. Première question, est-ce que le gouvernement va effectivement imposer de telles solutions ou reculer comme Madame Royal l'a fait après l'avoir proposé? Bon, moi je ne crois absolument pas que le gouvernement fasse autre chose que de nous amuser un petit peu.
Merci Francis.
Voilà.
Merci Francis pour cette intervention. Thierry Pêche, c'est vrai que c'est légitime hein, de se poser la question comme le fait Francis.
Bien sûr, je comprends qu'il se pose
le
la question.
Le gouvernement a une feuille de route. En fait, qu'est-ce qu'il cherche là? Il cherche à aboutir à un consensus, à un soutien de la population, c'est ça?
Non, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, on parle beaucoup de la défiance dans notre pays. Et on parle toujours de la défiance des citoyens à l'égard de leurs gouvernants. On ne parle jamais de la défiance des gouvernants à l'égard de leurs citoyens. Elle existe aussi. Et ce qui est fait avec la Convention citoyenne, c'est un geste de confiance à l'égard des citoyens. Et ce geste de confiance, c'est aussi une prise de risque. Effectivement, pourront sortir de cette Convention des propositions ambitieuses, peut-être radicales. Je ne peux pas en juger aujourd'hui, je ne sais pas. Ce ne seront pas mes propositions, ce seront les propositions de la Convention. Et donc il est possible qu'ils sortent des propositions telles qu'à celles qu'a évoquées Francis. Que se passera-t-il à ce moment-là?
Ça peut c'est ça, aboutir la à des mesures réglementaires, à des mesures législatives, auquel cas ça repart au Parlement, ou à un référendum. Ça
Absolument.
A été évoqué aussi.
Absolument, c'est les trois possibilités qui ont été évoquées, y compris par le Président de la République lorsqu'il s'est exprimé sur le sujet. Le Président de la République a ajouté qu'il soumettrait sans filtre ses propositions, soit au gouvernement pour application réglementaire directe, soit au Parlement pour examen et vote législatif, soit encore... un référendum. Eh bien, le rendez-vous est pris. Lorsque les propositions de la Convention seront connues, on verra si cet engagement est tenu. C'était un geste de confiance, c'est une prise de risque, ce sera un moment de responsabilité.
On va suivre tout ça. Trois petites questions rapides qui nous sont arrivées sur franceinter.fr. Thierry Pêche, pourquoi ne pas surreprésenter les jeunes? C'est leur avenir, leur terre. Pourquoi laisser la parole aux vieux? C'est Gwenaëlle qui parle des vieux.
Alors d'abord, il n'y aura pas plus de vieux dans la Convention en proportion qu'il n'y en a dans la société française. D'autre part, on a choisi de représenter aussi les 16-18 ans. On va s'efforcer d'inviter un peu plus de jeunes, c'est-à-dire des citoyens qui n'ont pas encore le droit de vote, mais dont on pense qu'ils sont parfaitement concernés, directement concernés par ce qui va se passer.
Une question très concrète aussi, c'est Xavier. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur le tirage au sort. On met des millions de papiers avec le nom de chaque citoyen dans un chapeau. On fait quoi?
Non, parce qu'on n'a pas trouvé de chapeau assez grand. Non, je plaisante. Je l'ai dit tout à l'heure, on tire au sort des numéros de téléphone. On en tire 255 000.
Oui, mais au bout du bout, il faut quand même faire une sélection.
Mais c'est ça la première sélection. 255 000 sur 47 millions.
Oui, mais pour arriver à 150, vous faites comment?
C'est tout de même déjà une sacrée sélection, si vous me permettez. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va prendre des citoyens qui vont nous dire oui, mais on va aussi peut-être dire non à des citoyens qui nous auront dit oui, parce qu'on aura déjà leur profil sociologique. De façon à ce que tout le monde soit représenté, c'était la question précédente, y compris les jeunes.
Merci beaucoup Thierry Pêche, co-président du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne. Merci mille
merci
fois.
À
merci
vous.
À vous Céline Guivarch d'être venue aussi ce soir sur France Inter. Merci à tous ceux qui m'ont appelé, à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Irène Menahem, Marion Lelay à la réalisation, merci à Jimmy Bourquin qui a lu vos mails, etc. Clément Berman, Michel Bézifian, Mathias Saléon étaient à la technique.